Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans toute une vie, à la découverte de vies en forme de portraits sonores d'hommes et de femmes qui ont marqué leur époque et les suivantes. Son nom est synonyme d'un journalisme de conviction. Anna Politkovskaya a dénoncé sans relâche les abus du pouvoir en Russie. La guerre était en Tchétchénie le jour où l'on a appris sa mort, et avec elle, l'itinéraire d'une journaliste qui tentait de redonner une valeur à la vie humaine, malgré la terreur et la violence.
C'est terrifiant aujourd'hui en Russie, tuer quelqu'un n'est rien. C'est devenu sans importance. Cela me fait peur. Dans mon pays, on tue, et puis on oublie.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de ce jour, nous parvient une nouvelle tragique en provenance de Moscou. En effet, on a retrouvé le corps sans vie de la journaliste Anna Politkovskaya, en bas de chez elle.
Anna Politkovskaya a été abattue par balle en rentrant dans son immeuble au centre de Moscou. Une voisine a retrouvé son corps devant l'ascenseur. La Russie est sous le choc. Tous les journaux télévisés ont ouvert sur ce meurtre.
Une armée des douilles ont également été retrouvées sur place. C'est à partir de ces indices que les enquêteurs russes mènent leur enquête. Cette enquête, Vladimir Poutine, en voyage officiel aujourd'hui en Allemagne, assure qu'elle sera impartiale. C'est la première fois que le président russe s'exprime publiquement, 3 jours après le meurtre.
Ce crime odieux et cruel ne restera pas impuni. Quels que soient les auteurs et leurs motivations, ils seront poursuivis. Ce meurtre porte plus préjudice au gouvernement que tout ce qu'Anna Politkovskaya a pu écrire.
Pour ses proches et certains de ses collègues, il ne fait aucun doute que son meurtre est directement lié à ses dénonciations du régime Poutine.
Elle n'avait pas de business, pas la moindre activité commerciale. Cette piste est exclue. Et je vous dirai plus, l'équipe d'enquêteurs n'a aucune autre version que le fait qu'il s'agisse d'une mort liée à son activité professionnelle.
Et pourquoi les autres pays ne viennent pas?
Pourquoi ils ne regardent pas ce tableau?
Pourquoi
les autres pays disent rien, se taisent alors qu'ils sont au courant? Ils savent ce qui se passe ici, mais ils ne veulent pas en parler.
Anna Politkovskaya, le prix de la vérité.
Anna Politkovskaya, Cena pravdy.
Un documentaire de Joanna Bedo et Agnès Catou.
Vous savez, par rapport à ma vie, je suis journaliste, mais c'est pas grave comment ils m'appellent.
Vous savez, moi je suis journaliste et ça m'est grosso modo égal comment on m'appelle et comment on me traite.
Мое дело простое, что я вижу, то рассказываю.
Mon affaire est très simple. Moi, je dois raconter ce que j'ai vu.
Я зеркало, в котором отражается жизнь.
Je suis le miroir qui reflète la vie.
Dans son bureau, je me souviens vraiment parce que à chaque fois c'était comment arriver, puisqu'elle était toujours en vadrouille et voilà, nous aussi, enfin, on a essayé d'un moment croiser nos chemins et j'allais très souvent à Novaya Gazeta.
Manon Loiseau, journaliste et reporter.
Et quand j'avais rendez-vous avec elle, on franchissait le palier de Novaya et puis on rentrait dans ses couloirs et puis c'était au bout d'un couloir sur la droite et je la voyais toujours très... Je me rappelle notamment d'elle avec un col roulé blanc très élégant, un très beau collier, des bouts d'oreilles, écrire, plonger avec plein de papiers sur son bureau, très concentrée. Et puis, on toquait à la porte et elle disait « Bonjour, assieds-toi ». Et puis voilà. Et après, je savais qu'elle avait peu de temps, mais elle était toujours bienveillante. Et c'est vrai que, voilà, je vous parlais de son bureau, mais il croulait sous des centaines de lettres qui venaient à travers la Russie. Elle les lisait toutes. Et après, alors elle pouvait pas faire un article sur toutes, mais elle s'intéressait, elle lisait chaque lettre et elle appelait les gens et elle essayait de les aider, même si elle faisait pas un article. C'était toute sa vie. Elle faisait ça sans discontinuer. Mais pour elle, il n'y avait pas d'autre choix.
C'est très connu qu'à Novaya Gazeta, Anna Politkovskaya avait son bureau, qui est maintenant devenu le musée, et donc
Zoya Svetova, journaliste et chroniqueuse pour la Novaya Gazeta.
Tous les jours, il y avait des queues des gens qui venaient chez elle voulaient parler avec Anna Politkovskaya et raconter leurs histoires. Et elle recevait énormément de lettres, énormément de coups de fil. Et elle utilisait toutes ces histoires de ces gens-là pour faire ses articles. Et quand elle allait en Tchétchénie, elle rencontrait des gens. Et vous savez, j'ai compris pourquoi elle venait en Tchétchénie. Parce que tous ces gens-là, leur histoire, c'était le sujet. Le sujet des articles, le sujet des livres. Et c'était sans arrêt. Quand elle écrivait des articles, le principal, c'était de défendre les gens dont les droits étaient violés par l'État. Elle était toujours du côté de faibles, toujours du côté des victimes de l'État, des victimes de l'injustice en sens général, pas seulement de la guerre, parce qu'elle écrivait beaucoup sur le sujet de justice. Elle couvrait tous les procès judiciaires contre les nouveaux dissidents russes, les gens qui étaient contre le pouvoir. Et donc, comment dire, il ne fallait pas chercher les sujets. Les sujets venaient chez elle.
Bonjour. Je vous écris car je suis votre fidèle lecteur et je ne sais pas à qui d'autre m'adresser. Mon problème réside dans le fait que je suis tchétchène. C'est un milicien gardien de l'ordre public qui m'a expliqué cela. Vous avez certainement vos problèmes. J'espère néanmoins que vous pourrez m'aider. Le 23 mars de cette année, je rentrais chez moi à 10h30 du soir. En chemin, j'ai été arrêtée par une patrouille de milice. Ils m'ont demandé mes papiers. Comme ils étaient en règle, ils m'ont fouillée puis ont exigé de moi que je leur montre mes mains, car j'étais, m'affirma-t-on, très pâle. C'est ainsi que la milice diagnostique souvent dans la rue la consommation de drogue. Mais on n'a rien découvert sur moi. C'est là que tout a commencé. On m'a enjoint de me déshabiller. J'ai naturellement refusé car le temps était glacial. Deux membres de la patrouille se sont mis alors à me frapper sur les reins avec des matraques en répétant qu'il fallait liquider tous les Tchétchènes. L'un d'eux disait, à chaque coup qu'il me donnait, que c'était pour se venger des Russes morts en Tchétchénie. Il m'aurait frappé jusqu'à la mort. Mais heureusement, le troisième milicien, qui, à la différence des deux autres, n'était pas ivre, est intervenu. Il a prononcé quelques phrases. Et après m'avoir asséné encore quelques coups, ils me prirent tout mon argent et menacèrent de recroiser ma route. Je ne peux vous communiquer ni mon nom, ni mon adresse. Publiez ma lettre si c'est possible et donnez-moi des conseils sur ce que je dois faire. Les miliciens m'ont affirmé qu'ils avaient 1000 manières de me mettre en tôle. Aidez-moi.
Pour Anna, je crois qu'aussi son engagement, l'engagement de sa vie, c'est qu'elle était journaliste.
Marie Mindras, politologue au CNRS, professeure à Sciences Po.
Et pour elle, le journalisme était un grand métier qui est né vraiment en Russie, en Ukraine et ailleurs, vraiment dans les années 80, le vrai journalisme, avec des vrais reportages. Et il fallait aller chercher la vérité pour la dire et l'expliquer. Et ça a été la grande passion, ça a été son métier de reporter et de journaliste. Et elle n'était pas que reporter de guerre, hein. Elle faisait beaucoup de missions dans les régions de Russie. Et notamment, une partie de son travail qui est peu connue, et qui à mon avis explique aussi largement pourquoi elle était devenue la journaliste à abattre, c'est qu'elle allait au-devant des soldats qui avait été blessé pendant les deux guerres de Tchétchénie. Comme elle disait, ils étaient blessés à la fois physiquement, souvent mutilés, mais surtout mentalement. Personne ne s'occupait d'eux. C'était tout juste s'ils avaient une petite pension d'invalidité. Souvent, ils n'avaient pas de logement. Et elle faisait ses comptes rendus dans la Novaya Gazeta, donc on avait tous accès à ses articles. Et je lui avais demandé, mais finalement, pourquoi tu fais tous ces voyages et puis enfin, toi, tu as toujours défendu la victime tchétchène. Et elle m'a dit, mais écoute, tous ces jeunes gens, ils m'écrivent de plus en plus parce que je suis la seule à parler d'eux. Donc pour eux, de toute façon, ils comprennent bien que ce qu'on les a envoyés faire en Tchétchénie, ça n'avait aucun sens et que ce sont peut-être eux les pires victimes parce qu'ils étaient du mauvais côté.
On savait qu'on nous envoie en Tchétchénie, mais nous ne savions pas qu'est-ce que ça veut dire.
Et
quand nous sommes arrivés ici, alors nous avons vu qu'est-ce que c'est. Rien de bon, des larmes, de douleur, des souffrances.
Elle a quand même donné son temps, sa profession et au final sa vie quand même pour la vérité de la vie des civils en Tchétchénie.
Aude Merlin, chargée de cours en sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles.
Elle documentait, elle relayait, elle interviewait. Et donc, c'est sûr que du coup, elle avait un capital confiance important. Parce que pour eux, voilà, elle était une des rares personnes russes qui venait dans les villages très haut en montagne. Donc, elle a quand même vraiment prouvé qu'elle était extrêmement empathique et plus que soucieuse, enfin déterminée à ramener la vérité que vivaient, que subissaient les civils au quotidien en Tchétchénie, à la ramener jusque aux oreilles ou aux yeux des lecteurs et de l'audience russe. Ce qu'il y a, c'est qu'une des différences profondes entre la première guerre de Tchétchénie et la deuxième, c'est vraiment le huis clos, et notamment la façon dont le Kremlin a compris que durant la première guerre, ce qui avait joué en défaveur du discours officiel russe et en défaveur de l'armée russe, c'était précisément le fait que la Tchétchénie était ouverte à tous les journalistes, et notamment aux journalistes russes, qui importaient, si je puis dire, ou réimportaient, en tout cas qui parvenaient à faire circuler cette vérité jusqu'aux oreilles des Russes, dans un contexte de télévision plurielle, de système médiatique qui était pluraliste à l'époque, parce qu'il y avait un pluralisme d'oligarques, etc. Et durant la Deuxième Guerre, c'était beaucoup moins le cas. Donc là, on comptait sur les doigts de la main les personnes comme Anna Politkovskaya. Et donc oui, c'est ça, elle relayait la parole, elle décrivait, elle écoutait patiemment, attentivement. Et puis elle était elle-même bouleversée. Bon, et puis elle a aussi vécu elle-même, elle le raconte, à un moment, une simulation ou pré-simulation d'exécution. Enfin, voilà, elle a été mise elle-même aussi dans des situations qui, du coup, donnaient un aperçu de ce que les Tchétchènes vivaient, subissaient lors des opérations de nettoyage, les tristement célèbres Zatchistki, lors des rafles, etc. Donc, elle était une passeuse, elle était une messagère gigantesque, et il fallait bien sûr traduire vraiment au plus juste, l'exactitude de chacune des images, de chacune des idées, de chacune des émotions aussi, de chacun des silences. Ah oui, oui, c'est sûr que, en fait, ce qui est difficile à décrire, je ne sais pas s'il y a vraiment de mots pour le décrire de la façon la plus complète possible, mais c'est l'état de sidération de civils qui ont subi un bombardement massif. L'état de sidération d'un exil précipité dans l'incompréhension, de la sortie de Grozny avec des fils et des fils et des fils de véhicules, enfin le mélange de peur, d'urgence, d'incompréhension de la situation, etc. Et là, c'est vrai que ça transforme les visages. Enfin, moi, il y a des visages qui m'ont très très longtemps vraiment hanté, mais c'est plus des visages d'enfants réfugiés en Ingouchie, dans des camps de réfugiés en Ingouchie, dont on voyait qu'en fait, parfois, ils avaient 7 ans, 6 ans, 8 ans, et leur visage, parfois, avait 50 ans, 60 ans. Enfin, ça, on ne peut pas le décrire, il n'y a pas de mots pour décrire ça. Enfin, comment dans un corps d'enfant, parfois, il peut y avoir l'effroi de quelqu'un qui a vu un membre de sa famille être tué sur le coup, ou un homme qui a été torturé et dont les cheveux ont blanchi, mais alors qu'il a 23 ans en une nuit. Enfin, et donc, en fait, c'est la transformation physique et psychique de chaque individu de façon singulière par le caractère extrême de ce dont l'humain est capable dans le pire, à savoir bombarder des civils, torturer, violer, humilier, blesser avec des paroles,
parce qu'en plus, il y a toute la question coloniale et la question religieuse. Et donc, dans les camps de filtration, les Tchétchènes subissaient aussi, non pas seulement des coups, des passages à tabac, voire des viols et de la torture à la Gégène, mais aussi des humiliations verbales ou des provocations sur la question de l'alcool ou du porc, puisque les Tchétchènes sont musulmans. Et donc ça, c'est des témoignages qu'on a pu recueillir, etc. Et ça, ça transforme aussi, enfin, surtout que dans la société tchétchène, tout ce qui est de l'ordre des codes ancestraux, des tabous, il y a vraiment eu des traditions et des codes coutumiers qui sont structurants dans cette société. Donc la parole peut être blessante de façon définitive et peut détruire l'honneur. Il y a un code de l'honneur qui est très très rigide. Et donc si l'honneur est détruit, la personne est détruite. Et donc ça, ça se voyait sur les visages. Quelqu'un qu'on a obligé de baisser son pantalon à un checkpoint, plus toutes les humiliations, la nourriture, ce qui n'en était pas évidemment dans les camps de filtration, jeter des graines qu'on jette aux poulets dans des cellules, où on donnait de l'eau sale dans laquelle les fédéraux russes avaient lavé leurs chaussettes comme unique boisson pour les détenus tchétchènes, etc. Donc plus les tortures. Et donc tout ça, voilà. Moi, c'est plus ça, c'est les visages. Chacun à sa façon, ou chacune, comment est-ce que avoir tutoyé l'horreur absolue et avoir été tout près ou avoir été détruit dans sa structure psychique et parfois physique transforme à jamais le regard, les yeux, l'expression du visage.
On ne nous laisse pas le temps de revenir à nous, de reprendre le temps.
Il n'y a pas
de temps calme ici.
On
s'est réunis avec les voisins pour enterrer les jeunes. Ils étaient tellement jeunes, ils étaient tellement beaux, des jeunes, des enfants. On s'est réunis pour pouvoir enterrer tous ces gens, parce qu'il y avait tellement de morts à enterrer.
Il y en avait
beaucoup, c'était pas possible de les compter.
Elle était profondément attachée à faire sortir des voix et faire entendre des histoires humaines et des histoires de souffrances humaines qui sont universelles. Et je crois que c'est sa force. Voilà, il y a Svetlana Alexievitch qui l'a fait d'une autre manière. Mais Anna, c'était quelles que soient les menaces, quelles que soient les intimidations qu'elle a reçues, c'est coûte que coûte faire sortir ses témoignages pour qu'un jour, si jamais il y a un tribunal un jour, en tout cas je ne sais pas si elle pensait à un tribunal, mais qu'un jour... que ces fois-là restent, que ces écrits restent, que ces gens sont là, ont existé, et que l'État peut pas dire qu'ils ont pas existé. Et ça, c'était vraiment, je crois, son obsession. Et c'est aussi pour ça, quand j'étais allée à Ekaterinbourg, où il y avait un hôpital qui s'occupait des anciens Tchétchénie, qui étaient tous gravement blessés, et Anna me donne des contacts, elle me dit « va les voir de ma part », et moi, je me suis arrivée de la part d'Anna Politkovskaya auprès de militaires, c'est quand même pas gagné. Et puis, il y avait des commandos aussi, enfin, vraiment, c'était voilà des blessés. Et ils ont tous dit, mais c'est la seule qui est venue nous voir. Et on nous a fait croire qu'elle était notre ennemi, l'ennemi de l'armée, l'ennemi de la Russie, du peuple russe, de la grande Russe. Et en fait, c'est la seule qui est venue entendre nos souffrances. Parce que maintenant que l'État nous a utilisés, rendus invalides, on est laissé à mourir, sans pension, sans pouvoir aller travailler. Et voilà, c'était le cycle infernal, ou comme le retour d'Afghanistan, en fait, tous ces gamins revenaient du front, désœuvrés, personne ne les prenait dans des boulots, même quand ils n'étaient pas blessés. Et puis après, ils tombaient, soit ils allaient dans des structures de sécurité, très souvent prenaient une arme, assassinaient des gens, ou alors se mettaient avec des mafias locales, allaient en prison, consommaient de la drogue, attrapaient le sida. Enfin, cette espèce d'atrocité de tous ces gamins, des dizaines et des dizaines de milliers, ont été complètement oubliés.
Il me semble que ce qu'elle veut, c'est elle-même s'exposer à la réalité.
Jean-François Boutor, journaliste et essayiste.
C'est majeur comme différence. Elle débarque pas avec une intention préalable, elle n'a pas de préjugés, elle veut faire face à une réalité, voir ce que cette réalité produit d'abord sur elle et autour d'elle, et en rendre compte. Elle n'est pas là pour faire un discours, simplement elle accepte de prendre de plein fouet la brutalité de la guerre, le désarroi des populations, la souffrance des femmes, des mères, des enfants.
На столе тикают механические часы. Как заведенные, они отсчитывают время. Sur une table, une horloge mécanique égrène son tic-tac. Remontée, elle ne compte que les heures à venir. L'homme comprend les règles qui gouvernent l'horloge et il la remonte tous les matins pour que le temps ne s'arrête pas. Mais l'homme est un être étrange. Il se soucie beaucoup des aiguilles de l'horloge qui lui indiquent l'heure, mais peu du temps. En septembre 1999, après avoir remonté un peu l'horloge et joué avec le peuple au jeu de quilles antiterroriste, Vladimir Poutine déclencha en Russie la deuxième guerre tchétchène. Et c'est ainsi qu'il fit marcher le temps en arrière. Bientôt, après la deuxième guerre tchétchène, une nouvelle guerre, civile celle-là, éclata en Russie. Quelle époque vivons-nous? Quelle est cette nouvelle guerre? Qui sommes-nous, nous, citoyens russes du début du XXIe siècle? Nous? Nous sommes prêts à nous étriper à chaque mot qui nous déplaît. Nous sommes intolérants et intransigeants. Nous? Nous avons recommencé en toute simplicité à remettre en vigueur des notions aussi graves que celles d'ennemis du peuple. Et nous collons cette étiquette sans distinction à tous ceux qui ne pensent pas comme la majorité. Nous avons reconnu qu'une balle dans la tête est le moyen le plus simple et le plus naturel de résoudre n'importe quel conflit, si minime soit-il. Nous, endurcis par la guerre, nous haïssons plus souvent que nous aimons. La haine est notre prière. Nous serrons volontiers des poings et nous les desserrons difficilement. Et de nouveau, au lieu de humer l'air à plein poumon, nous nous nourrissons du sang de nos compatriotes sans en être étonnés. N'est-ce pas cela, une guerre civile?
C'est
d'abord formidablement écrit. C'est magnifique. Ce livre qui s'appelle Tchétchénie, le déshonneur russe, un livre qui est quand même assez dur. Enfin, tous les gens qui l'ont lu, et il y en a beaucoup, ont été choqués par la violence dont elle rencontre, parce qu'ils n'imaginaient pas une telle violence. Et par l'écriture, on rentre dans une réalité qui est une réalité terrifiante, qui est ce qu'avait déclenché Vladimir Poutine pour arriver au pouvoir. C'était une deuxième guerre en Tchétchénie, où il veut prendre sa revanche, enfin la revanche du FSB, sur un peuple tchétchène qui a vaincu la Russie dans la guerre précédente. C'est ça qu'il promet. Il veut prendre sa revanche. Et cet homme est habité par l'idée de prendre sa revanche. Une revanche notamment sur l'humiliation que lui-même a vécue en 1989 à Dresde. Là où travaillent les agents du FSB à Dresde, c'est le siège de la Stasi. Or, un jour, le siège de la Stasi est assiégé par des manifestants qui veulent rentrer dedans, qui veulent accéder aux archives avant qu'elles soient détruites. Et pendant plusieurs heures, Vladimir Poutine appelle ses supérieurs à Moscou et il n'a pas de réponse. Et ça, c'est insupportable pour lui et il s'est dit « plus jamais ça ». Il a été humilié. Et c'est cette revanche-là qu'il veut prendre.
D'accord avec vous que la recherche d'un ennemi est l'activité favorite du gouvernement russe, des services. Le fait qu'un officier du FSB soit devenu le chef de l'État, bien sûr, ça développe ce fait. Et cela fait que le chef de l'État considère qu'il n'est jamais coupable de rien. Il ne voit pas de faute personnelle dans quoi que ce soit. Il est impossible de le critiquer. Il n'accepte aucune critique à son égard. Soit il y a un ennemi de l'intérieur qui est coupable à ses yeux, soit un ennemi de l'extérieur. Et même officiellement, ces termes officiels d'ennemi intérieur, par exemple, sont revenus dans le vocabulaire courant.
Elle cherchait toujours l'humanité des personnages. Elle a fait des portraits, notamment d'agents du FSB. C'est pas quelqu'un qui voit le monde en blanc et en noir. Elle distingue la violence et ce qui n'en est pas, bien sûr. Mais les personnes, elle les regarde. Un des derniers chapitres, c'est pourquoi je n'aime pas Poutine.
Pourquoi je n'aime pas Poutine ?
Elle dit, mais c'est pas l'homme que je n'aime pas, c'est la fonction.
Qui a donné à la société russe sa forme actuelle ?
Où est-ce que je vais le retrouver ?
Vladimir Poutine. Pour ma part, je ne l'aime pas justement à cause de cette Russie qu'il a sculptée. Voilà.
Qu'on me comprenne bien.
Je voudrais dire pourquoi
moi, citoyenne ordinaire, contribuable journaliste,
je n'aime pas le président de mon pays, alors qu'il a été élu en 2000 par la majorité écrasante de mes concitoyens et jouit encore à ce jour d'une cote de popularité très élevée. Je n'ai pas de grief personnel contre lui et je ne le connais pas directement. Pour moi, Poutine est une fonction et non une personne. J'ai des exigences toutes simples quant à cette fonction. Le président doit œuvrer à ce que son pays devienne meilleur et plus prospère.
Mais
il ne s'est rien produit de tel chez nous. La Russie de Poutine est encore plus souillée moralement que celle d'Eltsine. Elle ressemble à une décharge couverte de ronces et jonchée de débris.
Il y a eu, sous Staline, 6 adultes sur 10 qui sont passés au goulag. 6 adultes sur 10, d'une manière ou d'une autre. Donc vous voyez ce que ça fait dans les familles. Ça veut dire 6 adultes sur 10 qui ont subi ça, qui ont été imprégnés, marqués au fer rouge par cette culture de la criminalité et de la violence. Ça imprègne très profondément la Russie. Ça fait des gens violents. Et ça fait des gens fatalistes. D'ailleurs, regardez ce qu'elle écrivait. Et nous sommes son peuple. Nous assurons cette restauration. Nous sommes un groupe de tavarishi,
de camarades,
qui quelque temps durant
se sont pris pour des gospodas, des messieurs, et qui souhaitent revenir à la situation antérieure. Nous n'avons pas changé en nous mettant sous les drapeaux de Poutine. Nous sommes juste rentrés chez nous, et c'est le principal. Il n'y a eu aucune métamorphose, nous avons tout simplement fait marche arrière vers notre passé soviétique récent. Poutine a juste effleuré notre point sensible. Quel est ce point sensible? C'est notre servilité. Cet État nous est cher. Tel est notre pays.
Et elle termine.
L'esclavage est notre fatalité,
mais aussi notre fétiche.
Nous aimons être des esclaves.
La majorité écrasante rêve de la forme la plus commode de l'existence.
Je n'oublierai jamais cette journée. Plus d'un million de personnes sont descendues dans les rues de Moscou pour dire « Non, nous ne voulons plus vivre comme avant ». Debout sur le balcon du cinquième étage d'un immeuble de la rue Gorki, j'ai filmé avec un sentiment de bonheur d'avoir eu la chance d'assister et de participer à cet événement remarquable, et que ma caméra le préserve pour l'histoire.
Ce qui était unique chez elle, c'est la permanence, l'entêtement, l'énergie qu'elle a mis dans ce travail.
Alain Guillemolle, journaliste quotidien La Croix.
Et puis, surtout, le fait qu'elle a vraiment cru aux valeurs portées à l'époque de Gorbatchev, la glasnost, la transparence. Je pense que ce qu'il a fait en tant que journaliste et ce qui a fait la figure qu'on connaît, qu'on respecte aujourd'hui, c'est qu'elle ait cru à la possibilité de dire les choses, de raconter ce qui n'était pas racontable dans la période précédente. C'est-à-dire, sous Gorbatchev, tout d'un coup, il y a eu la possibilité de raconter ce qui se passait dans l'armée. Les bizutages de soldats, ça c'était une réalité qui était cachée. Et voilà, parler de la toxicomanie, parler de la prostitution, parler de la pauvreté, tout ça ne devait pas exister normalement en Union soviétique. Donc ça n'existait pas dans les journaux. Et dans les années de la glasnost, donc à partir de 1985, c'est devenu possible d'en parler. Et elle l'a fait notamment parce qu'elle appartenait à un petit milieu de journalistes auquel appartenait aussi son mari, Alexandre Politkovsky, qui travaillait pour l'émission phare des années Gorbatchev, Vzgliad, Le Regard, qui justement a contribué à mettre en lumière quantité de problèmes qui étaient ignorés à l'époque. Le manque de soins, la façon dont les hôpitaux manquaient de moyens, un tas de réalités qu'il était impossible de dire dans les années Brejnev, et puis qu'il est devenu possible de raconter à l'époque de Gorbatchev. Et ça, c'était très important. Elle a participé à tout ça. Les journalistes de cette émission, de Vzglad, se réunissaient souvent chez elle à la maison, autour de son mari. Elle participait aux discussions. Elle fournissait même des sujets, des affaires sur lesquelles elle avait travaillé, qui ensuite donnaient lieu à des reportages à la télévision, ce qui amplifiait l'écho de ces histoires qu'elle racontait et contribuait également à résoudre les problèmes d'un certain nombre de gens. C'était une période peut-être la plus heureuse de sa vie, hein, d'après ce que j'ai perçu, de ce qu'elle m'a raconté. Bon, d'abord, c'est l'époque de sa jeunesse, hein, jeune mariée, deux enfants, travaillant dans le milieu journalistique dans un moment très exaltant, parce que c'était l'époque où quantité de possibilités nouvelles s'ouvraient pour les journalistes. Et elle a fait partie donc de cette génération, avec quelques autres journalistes, qui ont ouvert la voie à un journalisme libre en Russie, en URSS à l'époque. C'est quand même pas rien. Je veux dire, avoir tout ce champ d'histoires à raconter, et ça, je pense que ça l'a énormément marqué, et ça justifiait une bonne partie de son travail.
Alexandre a joué un rôle très, très important dans cette libération de la presse à la fin de l'époque soviétique sous Gorbatchev.
Galia Kerman, historienne et essayiste.
Ce qui s'est passé, c'est que ensuite, des gens comme lui, qui étaient un peu les flambeaux de la perestroïka et les premières années post-soviétiques, ont été peu à peu remplacés par des journalistes d'un tout autre acabit, beaucoup plus, si j'ose dire, mercantiles et serviable. Et donc, peu à peu, il a perdu ses positions et ça l'a poussé vers l'alcoolisme. Il était très amer parce que il a tout perdu. Il n'était plus personne. Alors que sa femme était une étoile montante. Et donc, je crois qu'il l'a assez mal pris. Il était contre qu'elle aille sans arrêt en Tchétchénie. Et en plus, comme je dis, il buvait beaucoup, donc c'est tout ça ensemble, ça a rendu leur vie familiale très difficile et ils ont fini par divorcer. En même temps, Anna, elle est restée très dévouée parce que c'était le père de ses enfants, parce que elle a quand même vécu des dizaines d'années avec lui. Et je sais que à chaque fois qu'elle venait en Europe, elle cherchait toujours des médicaments pour lui, parce qu'il était, je dirais, quelque peu diminué. Elle avait aussi cette attitude qu'elle doit toujours se comporter de façon impeccable et de défendre ce qu'elle défendait parce que c'est juste et parce que ça lui permet de regarder dans les yeux de ses enfants sans avoir honte. Et en même temps, c'est vrai aussi qu'elle avait une sorte d'attitude un peu maternelle par rapport aux gens qu'elle défendait. C'est comme s'ils devenaient membres de sa famille. C'était très important pour elle.
Mais bien sûr, chaque journaliste свидетель, et moi aussi свидетель.
Bien sûr, chaque journaliste devient un témoin et je suis aussi témoin.
Ну, что касается ненависти, я лично об этом просто не думаю, и мне просто плевать на это.
Quant à la haine qu'on peut éprouver envers moi, je n'y pense tout simplement pas, je m'en fous.
Я просто должна делать свое дело, а все остальное рассудят потомки истории.
Je dois simplement faire ce que je crois est mon obligation, et le reste, c'est à l'histoire de juger.
Vous savez, d'ailleurs, c'était paradoxal, mais en Russie, dans le corps journalistique, il y a eu plusieurs journalistes, sans parler des patriotes et tout ça, mais même des journalistes qui étaient extrêmement critiques du régime Poutine, qui disaient qu'elle n'était pas une vraie journaliste, qu'elle était tout ce qu'on veut, une figure humanitaire, droit-lomiste, etc., etc., mais qu'elle n'avait pas de recul, qu'elle n'avait pas d'objectivité, qu'elle faisait ce qu'un journaliste ne doit pas faire, elle ne gardait pas la distance, etc., etc., qui était très critique d'elle. Elle était une figure absolument unique dans ce sens-là. Et donc, je pense que les événements marquants pour elle, c'était bien sûr beaucoup de choses qui se sont passées en Tchétchénie, mais aussi de grandes prises d'otages. En 2002, quand il y a eu la prise d'otages de Nord-Ost, il y avait 1300 spectateurs qui ont été pris en otage. Elle a proposé ses services, elle a pu y aller. Et bien sûr, elle a été extrêmement affligée par la fin de cette opération parce qu'il y a eu énormément de victimes. Et parmi les victimes, il y a eu beaucoup d'adolescents et de jeunes gens. Et donc Anna, elle a suivi le groupe des proches de victimes qui essayaient d'obtenir justice auprès des pouvoirs russes. D'ailleurs absolument sans succès. Et là aussi, moi, je l'ai accompagnée, par exemple, à une de ces réunions, et je voyais, comme je l'ai vu aussi avec les Tchétchènes, que pour ces gens-là, elle était la seule instance, la dernière instance, qui pourrait théoriquement les aider. Ils n'avaient la foi qu'en elle. Donc, il y a eu cette affaire de 2002. Ensuite, il y avait l'histoire de Beslan. Elle a essayé de prendre le premier vol possible pour arriver là-bas. Et elle avait l'idée de faire venir Maskhadov. Maskhadov, qui était encore président de la Tchétchénie indépendante, déjà occupé par les troupes russes, et qui, lui, se terrait quelque part dans le maquis, a déclaré qu'il viendrait pour essayer de dénouer cette crise et libérer les enfants, à condition que ce soit Politkovskaya. C'était elle, son garant personnel, en quelque sorte. Et donc, elle a pris le vol, et apparemment, elle a été empoisonnée, parce que elle est arrivée à Rostov-sur-Don, totalement inconsciente. Elle a été transportée à l'hôpital, elle était dans le coma, elle a été soignée. Toutes les prises de sang qui ont été faites ont disparu du dossier. Moi, je l'ai rencontrée près d'un mois après les faits, fin septembre, début octobre. Et elle était jaune comme un citron, parce que ses organes internes ont été atteints, et en particulier le foie.
Beslan, c'était quelque chose de innommable, en fait. C'était tellement, tellement atroce. Je pense que pour tous ceux qui ont été là-bas, qui ont vu ces cadavres d'enfants, ces petits, ces cercueils de tout petits enfants, c'est vraiment, voilà, c'était l'absolue conséquence de toute cette violence en cours en Tchétchénie après ces deux guerres. Et je me souviens de mère là-bas qui disait, mais si Anna était venue, peut-être qu'elle aurait pu parler aux terroristes et comme elle a fait à Nord-Ost, et peut-être sauver mon enfant. Donc il parlait d'Anna, et elle n'était pas là, et tout le monde l'attendait. Et on a su après que, voilà, mais les parents de ses enfants avaient vraiment besoin d'elle, et nous aussi, je crois. Moi, elle m'a manqué, et puis dès que voilà, j'ai appris ce qui s'était passé, on est rentré à Moscou, et elle a mis du temps à s'en remettre. Et je me rappelle d'une femme qui était quand même très marquée par ça. Enfin, c'est comme l'empoisonnement de Navalny, hein. C'est exactement le même genre de circonstances. Même, voilà, elle souffrait encore de son empoisonnement, elle avait encore ça en elle, et puis elle me parlait de ses enfants. Ça l'avait un peu déstabilisée dans jusqu'où elle pouvait aller. Alors, de toute façon, ce n'est pas la question de l'utilité. Mais là, elle avait eu beaucoup de menaces, de toute façon, toujours, mais là, ils étaient passés à l'acte. Et ça, on sentait que ça l'avait ébranlée. Et après, elle a... Elle est repartie. Mais c'était... Non, ils avaient clairement essayé de l'assassiner, déjà.
Écoute, tu n'en as pas marre de toi-même ? Moi, si, j'en ai marre de toi. Et de tes copains, dégagez. N'énervez pas la classe ouvrière. Barrez-vous.
L'année dernière, nous avons vécu sous la menace.
У меня страха нет.
Je n'ai pas peur. La peur, vous savez, on s'habitue. Je me suis faite à l'idée.
Quand elle rentrait après chaque mission, elle allait en Tchétchénie une ou deux fois par mois. et elle y restait à peu près une semaine à chaque fois. C'est-à-dire, elle vivait la moitié du temps, on peut dire, en Tchétchénie. Et quand elle rentrait, il fallait tout de suite écrire un grand papier. C'était généralement une page entière du journal, parfois même plus. Et une fois qu'elle a écrit sa page, deux jours plus tard, elle repartait. Vous voyez, donc elle vivait pratiquement en Tchétchénie. Et quand elle rentrait, elle était vraiment enragée parce qu'elle voyait que les gens à Moscou n'avaient rien à cirer, rien à faire avec cette guerre. Cette guerre, que ces Tchétchènes crèvent, ça ne les intéressait pas. Tout comme maintenant, ils font la fête à Moscou alors qu'il y a le sang qui coule en Ukraine. C'est exactement la même attitude et elle ne pouvait pas le gober. Elle rentrait et elle me disait « Galia, je me sens à la maison en Tchétchénie, parce que là, je parle avec des êtres humains qui souffrent. Et quand je rentre à Moscou, je me sens totalement étrangère, parce que la guerre de Tchétchénie a coïncidé avec la montée des prix des hydrocarbures. Donc, les gens ont commencé à vivre avec plus d'aisance. Ils ont commencé à acheter des voitures, planifier des voyages à l'étranger, ils ont commencé à s'acheter de l'électroménager, des biens durables, des appartements. Et donc, les gens étaient occupés par la consommation. Cette guerre, ça ne les concernait pas. Il n'y avait que de la haine pour les Tchétchènes, et c'est tout.
Pourquoi l'as-tu tué ? Je ne sais pas. Pourquoi lui as-tu coupé les oreilles ? Je ne sais pas. Pourquoi l'as-tu scalpé ? Mais c'est un Tchétchène. Compris. Tiré de l'interrogatoire d'un soldat de 19 ans de la 22e brigade du ministère de l'Intérieur de Russie, stationné en Tchétchénie pendant l'été 2001.
Elle a beaucoup témoigné. Elle a témoigné devant le Parlement européen, elle a témoigné devant le Congrès des États-Unis, etc., etc. Et là, on l'écoutait. Elle me disait que ça n'avait pas d'effet. C'était aussi assez décevant parce qu'on l'écoutait, on constatait, mais l'Occident considérait que, selon la loi, la Tchétchénie fait partie de la Russie, donc c'était une affaire intérieure. On n'intervenait pas. Mais au moins, on l'écoutait. Alors qu'en Russie, à part ses articles dans Nouvelle Gazette qu'elle écrivait, on ne l'invitait nulle part. Bien sûr, elle n'était pas invitée à la télé. Elle était très solitaire, en fait.
La dernière fois que j'ai vu Anna, c'était quelques semaines avant le meurtre. Et on a pris un long moment ensemble autour d'un café, donc on est en septembre 2006 à Moscou, et elle était en pleine forme, parce que d'abord elle revenait d'un voyage dans le Caucase, où elle avait été surprise qu'on la laisse partir dans le Caucase. D'ailleurs elle m'avait dit « c'est un peu étrange, mais je ne reçois plus de menaces ». Tout de suite, je m'étais dit, c'est pas bon signe, mais évidemment, je n'ai pas transmis ce ressenti. Puis elle m'a dit, écoute, c'est formidable, ma fille est enceinte. Voilà, et la petite Anya est née en mars 2007, mais elle a su qu'elle allait devenir grand-mère. Cette dernière rencontre avec Anna est aussi remarquable parce qu'elle m'avait rejoint dans un des hôtels très luxueux du centre de Moscou. Et nous étions réunis avec une vingtaine d'autres russologues, hein, donc spécialistes de la Russie, des États-Unis et des principaux pays européens, pour assister au Club Valdaï, où les autorités russes nous recevaient chaque année en septembre depuis 2003. Et à chaque fois, il y avait un long entretien questions-réponses avec Vladimir Vladimirovitch Poutine. Voilà. Et donc Anna était avec moi à l'hôtel et on attendait le bus qui allait nous emmener voir Poutine. Et donc elle me dit, mais qu'est-ce que tu vas lui demander ? Mais bon, voilà, elle avait une totale méfiance, et elle détestait l'homme et tout ce qu'il faisait. Il faut dire que déjà en 2006, plusieurs journalistes de son quotidien, Nova Gazeta, avaient été assassinés parce qu'ils travaillaient sur la corruption. Donc ce qui était frappant, c'était à la fois Anna qui était si curieuse de ce que Poutine allait essayer de nous faire passer comme message, mais aussi que la vingtaine de collègues qui venaient de Harvard, de Columbia, de Oxford et d'ailleurs, aucun n'est venu saluer Anna Politkovskaya, alors qu'on était vraiment à 5 mètres de tout le groupe qui attendait le bus. Et ça en dit long, c'est qu'elle était paria, elle était visée. Bah, si on était invité par Poutine, c'était peut-être pas une bonne idée que d'aller saluer Anna Politkovskaya.
Je me souviens aussi d'une question que je lui avais posée. Je lui dis, mais vous n'avez pas envie d'arrêter ? Il dit, oui, mes amis me disent ça, tu devrais te retirer, va te mettre au large, va passer 2 ans à l'étranger, de toute façon, ça va tourner mal, etc. Elle disait, et je l'entends encore me dire ça en russe, elle disait, «Я просто не могу», c'est-à-dire, «je peux simplement pas». «Я просто не могу», «je peux pas», et pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui sont morts parce qu'ils m'ont aidé, parce qu'ils m'ont donné une information. J'ai honte. Je suis coupable de leur mort. Elle éprouvait un intense sentiment de culpabilité. Elle dénonçait les crimes des autres, mais elle se sentait en même temps coupable de la mort des gens. Elle disait, je ne peux pas déserter. Ces gens ont payé un prix trop élevé pour que je puisse me retirer du combat. Elle a considéré qu'elle devait aller jusqu'au bout, en sachant qu'elle était en danger. Elle a raconté dans un de ses livres, je ne me souviens plus lequel, l'entretien qu'elle a eu avec Kadyrov. Kadyrov qui lui a dit « J'aurais déjà dû vous faire assassiner, et je le ferai. » Face à face. Et elle n'a pas reculé.
Здравствуйте, меня зовут Лена Костюченко.
Bonjour, je m'appelle Lena Kostuchenko et je suis une journaliste à Nova Gazeta. C'est un journal indépendant. C'est le dernier journal indépendant fédéral dans mon pays, en Russie. Je m'occupe des sujets sociaux, criminels, et parfois aussi je vais travailler dans les points chauds. Comment je suis arrivée dans la rédaction ? Quand j'avais 15 ans, par hasard, un jour, j'ai lu un article d'Anna Politkovskaya dans Nova Gazeta. Et cela parlait des enfants qui avaient grandi pendant la guerre en Tchétchénie. Avant cela, je n'avais jamais lu quelque chose de pareil. Et j'avais compris à ce moment-là que ce qu'elle écrit, c'est la vérité. Et ce qu'elle écrit ne correspond pas du tout à l'image qu'on nous donne à la télé et dans d'autres médias. Quand j'ai lu tous ces articles, j'ai compris que je voulais aussi travailler dans ce journal. J'ai déménagé à Moscou. Je suis arrivée à la rédaction du journal et on m'a embauchée en tant que stagiaire et ensuite comme correspondant. Quand je suis devenue salariée du journal, on était en avril 2006. Et le 7 octobre 2006, Anna Politkovskaya a été assassinée dans l'ascenseur de son immeuble. Depuis ce temps-là, 3 autres personnes ont été assassinées dans le journal Nova Gazeta. L'investigation de cette affaire a permis de mettre en prison les exécutants et les organisateurs de cet assassinat, mais pas les commanditaires. Anna Politkovskaya est irremplaçable.
Mais Новая газета continue à fonctionner et nous continuons à tout faire pour dire la vérité à nos lecteurs. Et aucun assassin ne pourra le changer.
À la fois, on n'est pas surpris. D'une certaine manière, c'était l'issue. Je pense qu'à ce moment-là, le régime russe veut donner un exemple et montrer qu'il y a des limites à pas franchir et que même Anna Politkovskaya, alors qu'elle a une renommée internationale, elle est connue dans le monde entier, elle publie dans le monde entier, même elle, elle n'est plus protégée. C'est l'idée de donner un exemple. Et pourquoi ? Parce que ça touche à une chose très sensible, qui est incroyablement d'actualité aujourd'hui. Anna travaillait à ce moment-là, en lien avec Boris Berezovsky, à la collecte de preuves des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui auraient permis de mettre les dirigeants russes en accusation devant un tribunal international. C'est à ça que ça sert. Poutine ne veut pas être traîné devant la justice internationale. Et il le craint. Pourquoi il le craint ? Parce qu'il a un exemple de quelqu'un qui, au fond, est son modèle. C'est Slobodan Milosevic et Radovan Karadzic, les auteurs du massacre de Srebrenica, des viols de guerre, des bombardements de civils. Tout ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine s'est déjà passé dans l'ex-Yougoslavie. Et il ne veut pas connaître le même sort. Voilà. Alors qu'est-ce que ça révèle ? Rien de neuf, en fait. Rien de neuf, c'est que ça confirme simplement ce qu'Anna nous disait du régime. Moi, j'ai une conviction personnelle, c'est que Poutine n'a même pas eu besoin de donner l'ordre de la faire assassiner. Elle était donc surveillée en permanence, évidemment. Il a suffi de faire savoir que la surveillance était levée, que les gens qui protégeaient l'accès à elle n'étaient pas là. Puis après, les choses s'enchaînent, et ça tombe quand même de manière incroyable le jour de l'anniversaire de Poutine, comme un remerciement.
Она, конечно, была выдающимся журналисткой, и это проистекало из того, что
Михаил Горбачев.
Замечательный человек. Очень сильный.
Elle était certainement une journaliste exceptionnelle. Et cela découlait du fait qu'elle était une personne remarquable. Quelqu'un de très fort moralement. C'est toujours difficile pour les gens comme ça. Ils sont en grande majorité idéalistes. Mais qu'entend-on par idéaliste ? On pourrait se demander si c'est une bonne ou mauvaise chose. Je me considère aussi comme un idéaliste. D'une manière générale, les idéalistes font avancer le monde. Et le plus souvent, ils finissent mal eux-mêmes. Elle a senti que c'était son époque. Dans son cœur et son esprit, elle était pour le redressement de son pays, pour le renouveau, pour que chacun ici se sente confiant et libre. Vous savez, je viens de rentrer de Norvège. Je suis tombée amoureuse. Donc, je suis encore dans mes rêves, en train de penser à mon avenir. Amoureuse, vraiment ? Absolument, follement amoureuse. Et ça m'est arrivé tout d'un coup. Je n'aurais jamais cru que ça puisse m'arriver. C'est la première fois dans ma vie que je me sens aussi bien, comme jamais avant. C'est la première fois dans ma vie que je vais en Tchétchénie en pensant, mon Dieu, je n'ai pas peur comme avant, presque avec enthousiasme, pas avec un poids sur le cœur comme d'habitude.
Une des premières questions que je lui ai posées, c'est comment ça se fait que vous êtes comme ça, vous et pas comme les autres ? Et c'est là qu'elle m'a raconté que son père était diplomate. Au passage, il faut se rappeler qu'il était ukrainien. Il s'appelait Mazepa, ce qui n'est pas rien aujourd'hui. Mazepa, c'est un grand défenseur de la nation ukrainienne. Et elle m'apprend aussi qu'elle est née à New York, donc elle a un passeport américain. Et que son père, comme diplomate, ramenait la littérature auquel elle ne pouvait pas avoir accès si elle allait dans les librairies, dans les bibliothèques. La littérature interdite. Et elle a découvert surtout des auteurs comme Anna Akhmatova, Marina Tsvetaeva, etc. Elle le dit, c'est dans cette littérature qu'elle a vécu un véritable éveil intérieur. Qu'elle a appris l'humanité dont elle a fait preuve.
Ce qu'elle faisait dépassait le journalisme, dans le sens où elle avait une sorte de compassion très profonde pour les victimes, et elle savait les décrire de telle façon que ça touchait le cœur. Elle s'attachait au destin individuel, elle se faisait des amis. Et donc, cette profonde compassion pour les victimes est un trait très marqué de la littérature russe, peut-être pas de toute la littérature russe, mais en tout cas, je pense qu'elle aurait pu devenir écrivain avec ce même regard pas larmoyant, un peu désabusé, mais en même temps profondément compatissant qu'avait, par exemple, Tchekhov. Elle aurait pu devenir une très grande voix, et en partie elle l'est devenue, simplement sa carrière a été très courte, une grande voix de non-fiction où le journalisme côtoie et se confond avec la littérature.
Кто сказал, все сгорело дотла, больше в землю не бросите.
Anna Politkovskaya, Le prix de la vérité, avec Galia Kerman, Jean-François Boutor, Alain Guillemol, Manon Loiseau, Marie Mindras, Aude Merlin, Zoya Svetova, avec la participation d'Olivia Bruno, lecture de Tchétchénie, le déshonneur russe, d'Anna Politkovskaya. Merci à Elena Kostyuchenko, aux nouveaux dissidents, à Flore de Borde et Michel Tchaninov pour les extraits de la vidéo tournée par les nouveaux dissidents. Merci à Jeanne Cavelier et à Reporters sans frontières.
Нет, она почернела от горя.
Extrait du documentaire Le goût amer de la liberté de Marina Goldovskaya. Extrait du témoignage d'Elena Kostyuchenko, vidéo faite par l'association Les Nouveaux Dissidents. Documentation INA Marie-Sophie Delabrosse, documentation musicale Antoine Vuillot, avec la collaboration d'Annie Signoret, la Bibliothèque centrale de Radio France. Prise de son, Johanna Gabric, Olivier Arnay, Romain Lukiens, Ludovic Auger, Éric Boisset. Traduction, Olga Mojaeva. Mixage, Nicolas Depagraf. Coordination, Anaïs Kien. Attachée de production, Sylvia Favre. Un documentaire de Johanna Bedeau et Agnès Catou.
Затаилась на время.
C'était toute une vie. Retrouvez l'émission, ses podcasts et ses bonus sur l'application Radio France et sur le site franceculture.fr.